Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Seule la lutte libère, n'a rien que bataille va faire avancer ses affaires. C'est pas... On n'y croit pas dans le politique, on n'y croit pas dans le système, on y croit dans le peuple, on y croit dans le par nous-mêmes, on y croit. Voilà. On y croit dans bon Dieu aussi, mais mettre mon vitéra dans la cabane de mon aurait pu débarquer, crase à nos coups de l'auto, même rien comme ça. On y croit, on y croit, on a une affaire plus forte que ça. Il faut bataille d'un système mis oppresse à nous comme ça, il domine à nous comme ça. On a de monde, on a plein l'argent. Il gagne des milliards là depuis le Covid, ben, tout ça là. Tout, plus le temps il passe, plus mais encore plus ancré dans mon bataille.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.1. Aujourd'hui, on va parler d'un endroit un peu spécial à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Il s'agit d'un rond-point, et pas n'importe lequel, le rond-point des Azalées, situé dans le sud de l'île de la Réunion. Au lieu de la mobilisation pendant le mouvement des Gilets jaunes, son occupation se poursuit aujourd'hui encore, même si bien sûr elle a évolué depuis. La communauté Azalée a grandi, s'est installée plus pérennement et s'est surtout affirmée dans le paysage politique et social réunionnais. Et pour en parler, aujourd'hui, j'accueille Clara Lucas, doctorante en sciences politiques au centre Émile Durkheim. Sa thèse en cours, intitulée « L'action collective par ses sentiments moraux, étude de cas du mouvement des Gilets jaunes à La Réunion et en Nouvelle-Aquitaine », interroge l'engagement au sein des mobilisations populaires en s'intéressant au ressort émotionnel de l'engagement. Dans le cadre d'un numéro spécial pour la revue Participation, sur ce que le mouvement des Gilets jaunes a fait à la participation politique, elle travaille sur le rond-point des Azalées. Bonjour Clara.
Bonjour.
Alors avant d'entrer plus en détail dans le contenu de ton article, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire avec le rond-point des Azalées, avec les militants et militantes qui y vivent ou qui y ont vécu, et peut-être plus généralement ton lien avec l'île de la Réunion ?
Alors mon lien avec l'île de la Réunion est de nature plutôt académique, hein, puisque moi je suis une zoreille, hein, ce qui signifie métropolitaine en créole réunionnais. Et je suis donc allée à La Réunion dans le but de conduire une enquête de terrain sur l'émanation locale du mouvement des Gilets jaunes. Ma rencontre avec le rond-point des Azalées, elle s'est donc faite dans ce cadre-là, au début de l'année 2022. Et lorsque j'y suis allée et que je me suis présentée et que j'ai présenté ma thèse, une des militantes m'a proposé donc de loger dans la cabane réservée aux invités de passage, la Casidor, ce qui m'a permis donc de passer différents séjours sur le rond-point pour y observer le fonctionnement organisationnel et politique, mais aussi y faire l'expérience de la vie quotidienne. Et donc mon rapport avec les militants, c'est donc d'abord un rapport d'enquête, hein, avec ses exigences de neutralité et d'objectivité, mais qui s'est aussi transformé dans certains cas en des liens parfois assez forts du fait de l'expérience de cette vie en communauté, très chargée affectivement, qui est celle du rond-point.
Et tu y es allée à combien de reprises sur le rond-point ?
J'y suis allée à 3 reprises. Donc une première fois au début de l'année 2022 et ensuite à 2 reprises en 2023.
Ok, ça marche. Et moi, je me demandais aussi quelle place a peut-être le militantisme dans ta recherche. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux luttes, aux actions collectives ?
Je pense que je me suis intéressée au mouvement des Gilets jaunes par rapport à une certaine affinité. Il me semble que le chercheur ou la chercheuse a la chance d'avoir les moyens à sa disposition pour collecter un ensemble d'archives, de témoignages, d'histoires qui permettent à minima de produire des traces écrites de ces mobilisations. Donc il y a un enjeu, me semble-t-il, en termes de mémoire, de travailler sur ces luttes. Par ailleurs, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi une particularité, c'est que le mouvement a été touché d'un certain discrédit, puisque certaines élites politiques, intellectuelles ou médiatiques ont assimilé à tort la mobilisation à un mouvement d'extrême droite qui véhiculerait diverses formes de haine de l'autre. Mmh. L'enjeu est donc aussi, dans ce cas-là, de rétablir la réalité de façon empiriquement fondée, en veillant, bien sûr, autant que faire se peut, à ne pas tomber dans une vision qui serait trop enchantée de la mobilisation.
D'accord, bah si justement je t'invite ici Clara, et si on parle de tout ça, c'est pas complètement par hasard. Il se trouve que moi aussi j'ai connu ce rond-point, mais dans d'autres circonstances. Moi j'ai grandi à La Réunion jusqu'à l'obtention de mon bac, et je suis partie étudier en France dès 2015. Au moment des Gilets jaunes, moi je me souviens avoir suivi de loin avec un ami qui vient aussi de La Réunion, les événements sur l'île. On avait d'abord été très surpris par l'ampleur que le mouvement avait pris là-bas, mais aussi par les moyens de répression qui ont été mis en place par la préfecture et le gouvernement, notamment par exemple l'instauration d'un couvre-feu, mais aussi l'intervention de l'armée. Et puis en partant de là, on a eu une idée qui serait peut-être de réaliser un documentaire sur ce qui se passait. D'abord pour rencontrer les militants, les militantes, comprendre qui ils et elles étaient, et surtout en quoi leurs revendications elles étaient spécifiques aux problématiques de l'île. Puis en février 2020, on a découvert le QG Zazalé, on a commencé à filmer et on était super emballés par l'énergie qui se dégageait de cet endroit. Sauf que manque de bol, un mois plus tard, c'est le confinement. Et on doit tout interrompre, on est retourné chacun en France pour terminer nos études, sauf que moi, j'ai pas abandonné le projet. Et en 2022, j'ai intégré le master de réalisation documentaire de Bordeaux-Montaigne. Les Zazalés existent toujours à ce moment-là, le rond-point est toujours occupé et j'y suis retournée seule cette fois, mais aussi formée. Pour les filmer. Donc cette année, j'ai terminé un film d'études. C'est un court-métrage documentaire de 30 minutes qui interroge l'identité réunionnaise par le biais des militants et des militantes du QG. Comment est-ce qu'ils la définissent, mais aussi comment est-ce qu'ils la pratiquent au quotidien. On reparlera de tout ça, bien sûr, avec toi, Clara. Mais avant ça, je propose qu'on écoute un extrait du film avec Xavier, un des membres fondateurs du QG Zazalé, qui nous raconte les origines de la mobilisation et son implication.
Et bah, plus le temps passait, plus m'a eu confiance. Parce qu'au début, on était une dizaine, donc il fallait avoir la foi pour rester au début. On dit quoi, ça fait que ça, qu'il y en a 10 monde d'un rond-point, on était 10, 20, t'es là, t'en fais que manger. Comme on a dit, bon, je me fais grillade dans le rond-point. Déjà, j'étais content d'être en désobéissance par rapport au système. Un rond-point, on n'avait rien que gazon, ben, on a gagné mettre la vie dessus. Et plus le temps passait, bah, plus nous la trouvons en légitimité. Du coup, tu as fait une cohésion là, créée autour de ça, une cohésion là, créée aussi autour du rond de causé que nous avons installé là direct. Et ben, dès le départ, la réunion, toute bonne barrage par tout. Tu connais un petit peu le rond de par rapport à ça, que là-bas, la ronde causée, là-bas, c'est pas un décide, c'est pas c'est qui crie le plus fort décide, etc. Donc, ouais, là, parce que ma gain, j'ai aussi vie perso, vie active, tout en même temps. Parce que ma coupe, moi depuis moi les années, depuis un peu avant même aussi, m'a plus aucun lien, m'a plus de papier en fin de compte. M'a plus de papier, m'a plus de RSA, m'a plus de papier, mais gagne en sortant moins de par moi-même vraiment. C'était important pour moi de sortir de ce schéma. À moi, la Réunion pour moi elle est occupée par la France. Mais ça va, comme ça va au tribunal, c'est bonnes oreilles, juge à moi. Comme ça va la panique, c'est les gendarmes oreilles, ils viendront pas moins. C'est sûr qu'il y en a aussi des collaborateurs rayonnés, hein, mais ça fait partie du système colonial pour moi.
Donc Xavier nous explique que la cohésion sur le rond-point s'est formée autour de deux aspects principaux, les repas partagés et le rond causé, sur lequel on reviendra plus tard. Il dit aussi que depuis qu'il est sur le rond-point, il a coupé tous ses liens avec la société, il n'a plus de papier, il ne touche aucune aide, et c'est ce désir d'autonomie, du par nous-mêmes pour nous-mêmes, qui le fait tenir. Clara, donc toi, j'imagine que tu l'as rencontré, ce Xavier. Peut-être que tu pourras nous parler de lui, mais aussi nous parler des origines de l'installation du QG Zazalé sur le rond-point, ce que tu en as appris, ce que tu en sais, peut-être aussi même ce que tu en as vu. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ?
Du coup, l'occupation en continu du rond-point, elle remonte au mois de janvier 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement des Gilets jaunes à La Réunion, il a sa temporalité spécifique, puisqu'il commence avec une force et une ampleur extrêmement conséquente, avec une quarantaine de ronds-points qui vont connaître des occupations bloquantes avec des points particulièrement importants comme les échangeurs routiers, mais surtout peut-être le port est d'où arrivent les importations, avec un blocage quasi total de l'île. Mais l'arrivée de la ministre des Outre-mer à la fin du mois de novembre, qui va entraîner le démantèlement des ronds-points, tandis qu'elle annonce un ensemble de promesses pour la Réunion, conduire à une décrue assez brutale du mouvement. Et en réaction, les militants de ce qui va devenir le QG Zazalé vont donc décider d'installer une des cases du peuple parmi une des quinzaines qui vont prendre place sur des ronds-points emblématiques de l'île. Et pour devenir progressivement le QG Zazalé avec une édification progressive de construction, à commencer par le boucan, l'espace central du rond-point.
Et quelles ont été aussi les spécificités de ce mouvement-là à La Réunion ? En quoi est-ce qu'il a été inédit dans l'histoire des luttes réunionnaises ?
Il y a une forme, on va dire, d'inédit participationnel qui s'est joué, donc à la fois par la participation massive de la population, également par le fait qu'il se déroule sur vraiment l'ensemble du territoire. Et ce qu'ont montré les travaux qui ont été menés à chaud sur le mouvement, c'est qu'il y a une appropriation initiale d'enjeux multiples, notamment écologiques, qui vont faire émerger dans l'espace public et politique des propositions vraiment alternatives. Et c'est aussi en réaction à ce qui était dit dans l'extrait, le concept de un peu par nous-mêmes. C'est vraiment ce qui va se passer pendant le mouvement des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes vont avoir vraiment pour objectif premier de proposer eux-mêmes les solutions aux problématiques qu'ils identifient, notamment via le recueil des doléances populaires qui vont être centralisées lors d'un pique-nique au port le 23 novembre, qui va rassembler près de 10 000 personnes et qui va servir de support à la rédaction d'un livre jeune, ensemble de propositions politiques pour la Réunion.
Quand on parle justement de spécificité des luttes réunionnaises sur l'île et donc de la participation du QG Zazalé à ces luttes, moi il y a un extrait que j'aimerais te faire écouter aussi d'un rassemblement de militants qui a eu lieu en 2023 et auquel le QG Zazalé a participé pour la défense de la langue créole. Ce rassemblement a lieu devant le rectorat et c'est Huguette Bello, présidente de région, qu'on entend, qui va intervenir.
Le créole, c'est la science de ma conscience de réunionnaise. De ma conscience de réunionnaise. Et c'est pour ça qu'avec Claude Guaraud, Élie Guaraud et nous-mêmes, on a été les premiers à déposer pour que le créole, cette belle langue qui vient de partout, de toutes les terres du monde, et donc on la défend, on l'aime, on a de l'amour pour elle.
Mais pas suffisant.
Mais pas suffisant.
Madame. Pas suffisant, madame.
La convention est l'outil.
Quels outils ?
La convention, on va signer. On va faire un concours. En avril, on fait un concours d'éloquence.
Nous parlons de l'école.
C'est joli, mais c'est sans rapport avec la violence.
J'ai compris.
Nous parlons de la violence.
J'ai compris. Les conséquences psychologiques. La non-considération de sa langue.
La violence institutionnelle contre l'identité réunionnaise et la langue. Lui parle aussi de ça. C'est cette violence au quotidien que les marmailles de la maternelle y reçoivent dans leur figure, parce que effectivement, on est en face d'enseignants qui parlent que le français, alors qu'ils pourraient parfaitement faire en sorte que la langue maternelle l'est installée dans le cursus éducatif. Donc,
la pas seulement assise dessus pour le français.
Voilà, c'est pas un tremplin, c'est pas
pour les autres langues. Monsieur, toutes les langues sont belles. Oh.
Donc là, on entend clairement des militants qui interpellent Huguette Bello en lui parlant de violence institutionnelle par rapport à l'enseignement de la langue créole, enfin plutôt le fait que la langue créole ne soit pas employée par les enseignants alors qu'elle pourrait très bien être intégrée dans le cursus scolaire. Est-ce que tu as des remarques à faire à ce sujet, ou peut-être pour aller plus loin, comment est-ce qu'on peut ancrer ce discours-là dans un discours plus global sur les critiques qu'on peut faire à un système post-colonial, néocolonial, je ne sais pas exactement comment l'appeler, peut-être que tu pourras m'en dire un peu plus. Et comment est-ce qu'il se matérialise à La Réunion ?
Oui, effectivement, il y a donc ce concept de post-colonie que Françoise Vergès définit comme une situation où perdurent les effets du régime colonial, tout en connaissant de nouvelles expériences engendrées par le déclin des productions locales, l'entrée dans l'espace européen, la mondialisation, l'augmentation du nombre de diplômés, l'émergence de revendications, de réparations historiques et d'affirmations de différences culturelles. Donc ce concept de post-colonie permet d'envisager ce qui en fait demeure de l'institution coloniale dans la société contemporaine, malgré le processus de décolonisation qui est censé avoir eu lieu et qui, dans le cas réunionnais, n'est pas la voie de l'indépendance, mais à l'inverse, celle de l'inclusion politique via la départementalisation en 1946. Alors l'exemple, enfin ce n'est pas vraiment un exemple, mais peut-être ce qui est le plus parlant, c'est en fait une certaine permanence de la stratification sociale par rapport à la société coloniale. Et ça, c'est les travaux notamment de Laurent Médéa qui ont montré que le groupe CAF, qui sont donc les descendants des populations esclavisées, sont largement surreprésentés dans les milieux sociaux défavorisés. Tandis que Nicolas Roinsart montre que, alors qu'on a une forme d'avènement, certes, d'une classe moyenne, la nouvelle division sociale fondée sur des positions socio-professionnelles ne supplante pas totalement l'ancienne segmentation raciale caractéristique de l'organisation sociale coloniale. Un exemple peut-être un peu plus concret, qui est souvent mobilisé, c'est par exemple le fait que les fonctionnaires métropolitains qui viennent travailler sur l'île bénéficient d'une surrémunération, notamment à travers la prime d'éloignement, ce qui tend en fait à encourager la présence de métropolitains dans la fonction publique d'encadrement et donc le maintien de certains groupes sociaux dans des positions dominantes.
Et du coup, quels sont un peu les enjeux de la participation politique à La Réunion dans ce contexte postcolonial ?
Alors, pour le dire un peu schématiquement, il me semble que les luttes réunionnaises, elles se structurent autour un peu d'un double enjeu qui est à la fois la quête de l'égalité et en parallèle, la reconnaissance d'une spécificité territoriale. Donc la conquête de l'égalité sociale d'une part, puisqu'il va falloir attendre près de 50 ans après la départementalisation de 1946 et donc un ensemble de mobilisations pour que les Réunionnais obtiennent réellement les mêmes droits sociaux que les citoyens de l'Hexagone, notamment par rapport à l'accès à la sécurité sociale, au montant du SMIC. Et en parallèle, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et notamment entre les années 1960 et 1980, il y a aussi des luttes pour l'affirmation et la reconnaissance d'une identité réunionnaise qui ne serait pas évidemment réductible à un modèle national et qui va prendre la forme de mobilisation autour du Parti communiste réunionnais pour demander l'autonomie politique de la Réunion. Il me semble que le mouvement des Gilets jaunes, il donne aussi à voir ces deux aspects d'égalisation d'une part, puisque si on regarde la problématique de la vie chère, il y a dans les revendications une demande d'alignement du coût de la vie par rapport à la métropole, notamment par l'abaissement des prix des biens de consommation et la suppression de taxes telles que l'octroi de mer, mais aussi des demandes de reconnaissance politique d'une spécificité territoriale et réunionnaise par la mise en place, par exemple, d'un dispositif démocratique local que serait le RIC pays, donc un référendum d'initiative citoyenne qui s'appliquerait à l'échelle de la Réunion.
Oui, alors justement, tu le dis dans ton article, et là tu viens de le formuler très bien, c'est que le mouvement Gilets jaunes et le QGZL se rassemblent autour de la question de l'identité réunionnaise, ils valorisent la culture créole et se rapprochent donc de ces revendications autonomistes, indépendantistes, etc. À propos justement d'identité réunionnaise, moi j'aimerais te faire écouter encore un extrait qui est de Ludo, cette fois un militant qui était là aussi dans les premières heures du rond-point et qui nous donne sa définition de l'identité réunionnaise.
Maintenant, c'est la complication de certaines personnes, midi oreilles deuxième génération, pour bien comprendre. Ses bonnes parents oreilles, la installation de la Réunion, et la fait enfant, du coup, honte oreilles à la Réunion. Et Mama, il grandit ici, et il est retrouvé face à un phénomène qu'il n'y a point son culture oreille, parce que sa famille l'a amené, l'a né ici, il est né ici. Il est né à une culture plutôt rayonnée, créole, mais il n'est pas rayonné, créole. Parce que c'est deux parents oreilles qui viennent arriver. Et quand on commence à définir rayonner, créole, rayonner, c'est que les longs, les costauds, parce que c'est la pleine chose qui fait que nous les rayonner. De moins, on va dire notre langue, c'est un ciment. Notre maloya, c'est un ciment. Mais on a d'autres choses que les invisibles, en fin de compte. On est dans ce. Sans la gain et le choc en commun, de moun la gain et ben moi en commun là-bas, c'est le traumatisme à l'esclavage qui régit toute réunion en fin de compte sans que nous comprenions. Léon, nous n'est un colère, et souvent pas expliqué, souvent pas compris. ou les gens sont collés, ou les papoukés, ou les rebelles, ou les papoukés. Si ou grotte dans la cour, le discours ce sera toujours ça, ils ont la collée, ils ont envie de tout aussi énerver contre n'importe qui, n'importe qui, mais ça ils sortent, ça ils connaissent pas ça. Ben moi je me dis ça ils sortent avec nos traumatismes communs que nous n'avons.
Donc au début de cet extrait, on entend Ludo qui parle des oreilles de deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de parents métropolitains qui se sont installés sur l'île et qui ont grandi sur l'île. Quand il parle de ça, évidemment, il s'adresse à moi parce que je suis directement concernée. Il explique qu'il y a une différence fondamentale entre oreilles et réunionnais, peu importe la génération à laquelle on appartient, et que ce qui fait l'identité réunionnaise, c'est plusieurs choses. Donc il y a la langue créole, le maloya, comme il dit, ce sont des ciments. Mais il y a aussi quelque chose d'invisible, et c'est ce qui nous différencie, c'est le traumatisme de l'esclavage. Comment est-ce que toi, tu comprends cette définition, Clara ?
Oui, effectivement, il me semble qu'il y a des travaux qui montrent à quel point il y a des formes de transmission en fait intergénérationnelle de ce que ça a été. À la fois aussi peut-être cette particularité d'être souvent à la fois descendant d'esclaves et descendant d'esclavagistes, qui peut aussi forcément être générateur de formes de conflits intérieurs. Et qui rend évidemment plus complexe la question de l'identité réunionnaise que effectivement seulement la maîtrise d'une langue qui finalement peut être acquise assez facilement, enfin en tout cas si l'on on fait les efforts.
Toti kafia malba, mwen nation ban bata.
Mwen pa blanc non mwen pa noir, tal pa mwen si mon histoire. Chinois arabe j'aurai comme mwen nation ban bata.
Chinois arabe
Rode à tuer si tu veux, à cette à tuer si tu veux, ton blanchité, gagne à tuer si tu veux, à cette à tuer si tu veux, ton francité, quand même là pas besoin de rouler, à moins faible à mon qualité, tes bodies coulent à terre, somme toute mon batacité, quand même là pas besoin de rouler, à moins faible à mon qualité, tes bodies coulent à terre, somme toute mon rayonnette, ça y est, tes bodies coulent à terre, somme toute mon batacité, ça y est, tes bodies coulent à terre, somme toute mon rayonnette. Si tu veux, ton pied l'a une cité, gagne à toi si tu veux, achète à toi si tu veux, un pied chinoisité, en même là pas besoin de rouler, en moins faible en qualité, des bords du la terre sans toute mon batacité, en même là pas besoin de rouler, en moins gobble mon qualité, des bords du la terre sans toute mon rayonnette,
ça y est, des bords du la terre sans toute mon batacité, ça y est, des bords du la terre sans toute mon rayonnette.
Si tu veux, achète à gagne si tu veux ton européenne, gagne à toi si tu veux, achète à toi si tu veux, puis l'africaine, quand même n'a pas besoin de rôder, on me fait blanc mon qualité, des bodies coulent à terre, j'aime tout mon batacité, quand même n'a pas besoin de rôder, on me fait blanc mon qualité, des bodies coulent à terre, j'aime tout mon rayonnette. Ça y est, des bodies coulent à terre, j'aime tout mon batacité.
On vient d'entendre le titre Bâtard Cité de Daniel Warraud, tiré de l'album du même nom.
Koji put u životu svoje ludoj glavi gledaš istu sliku.